Mondial Sport sur RFI.
Hugo Moissonnier.
Éric Mamrut.
Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mondial Sport. Un peu de football, ça vous dit, le ballon rond en Europe, mais surtout en Afrique. Bonsoir Éric Mamrut.
Bonsoir Hugo, bonsoir tout le monde.
La Coupe du Monde est à Dakar depuis aujourd'hui.
C'est une étape de la tournée mondiale du trophée de la Coupe du Monde. Après le Nigeria, ces deux derniers jours, place au Sénégal. Aujourd'hui et demain, Babacar Fall est allé à la rencontre de ce trophée doré. Le Mondial, c'est dans un petit peu moins de 100 jours en Russie. L'occasion de détailler le programme de préparation de l'une des équipes africaines engagées, le Nigeria. Gernot Rohr, son sélectionneur, nous dira tout. Au programme encore les péripéties sur le tour du Cameroun cycliste, partira pas, Joël Wadem sur place fera le point. Une curiosité, un tournoi international de pétanque à Niamey. Enfin, nous entendrons la deuxième partie de notre entretien avec le ministre des Sports ivoirien, François-Albert Amichia. Nous parlerons essentiellement football avec lui.
Et nous parlerons aussi rugby. Le 15 de France va mieux. Retour sur le crunch et ses enseignements. Au menu également les Jeux paralympiques d'hiver de Pyeongchang. Focus sur le biathlon pratiqué par des déficients visuels. Mondial Sport, c'est parti. Mais le football, pour commencer, comme promis, en Afrique, Éric Mamrut, suite du périple de la Coupe du Monde sur le continent, le trophée est arrivé à Dakar, au Sénégal, aujourd'hui.
Après le Nigeria, ces deux derniers jours, Bright Abiola nous en a parlé hier, la Coupe Dorée visite un autre pays africain, qualifié pour le Mondial russe, le Sénégal. L'engouement, du coup, était important au passage de cette Coupe du Monde, tant convoité, Babacar Fall, sur place, a pu le constater.
Il est 10 heures passées quand l'avion de la FIFA aux couleurs de son sponsor se pose sur l'aéroport Blaise Diagne de Dias avec à son bord Christian Carambeu, ancien champion du monde avec la France, ambassadeur de ce FIFA Trophy Tour.
Un privilège de revenir ici au Sénégal avec le trophée de la Coupe du Monde pour partager l'expérience de ce trophée avec les fans sénégalais puisqu'ils sont très nombreux et qu'en même temps inspirer, donner du courage aussi aux lions de la Teranga de pouvoir, pourquoi pas, refaire la même édition qu'ils ont fait en 2002 mais aller très loin.
Le trophée de la Coupe du Monde brièvement dévoilé et présenté, le ministre des Sports et la délégation qui était venue l'accueillir n'ont pas pu toucher le bijou de 5 kg d'or. Ce privilège, c'est pour les anciens champions du monde et les chefs d'État. Direction le palais présidentiel, ambiance de stade avec des groupes de supporters, le président du groupe 12e Gaïndé, 12e Lion à Wolof. Il s'appelle Issa Alaï Diop.
Nous sommes enthousiastes et nous sommes très ravis aujourd'hui et très optimistes.
La génération 2002 était de la partie, l'ancien milieu Khalilou Fadiga.
C'est toujours un plaisir, hein. Vous savez, c'est un honneur. Peu de pays sont choisis pour que la Coupe du Monde puisse être présentée aux gens, à leur président, à la plus haute autorité. Donc voilà, pour nous c'est une fierté.
Et l'instant symbolique d'ouvrir la cloche de verre où est minutieusement rangée la Coupe du Monde FIFA. Macky Sall, le chef d'État sénégalais, la soulève. Moment d'euphorie.
Je souhaite à notre équipe nationale qui nous ramène la Coupe du Monde. L'Afrique doit gagner la Coupe du Monde. Et si l'Afrique doit gagner la Coupe, c'est le Sénégal qui va ouvrir le bal.
La lucidité d'Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions.
On a tous à cœur de faire un bon parcours. Mais comme je l'ai dit, ça passera d'abord par affronter nos trois adversaires de notre poule. C'est une poule plutôt équilibrée, mais c'est une poule difficile.
Le trophée de la Coupe du Monde exposé quelques heures sur le grand théâtre de Dakar pour permettre aux amateurs de foot de s'en approcher et de prendre des photos en attendant Russie 2018. Babacar Fall, Dakar, RFI.
Et après Dakar, le trophée de la Coupe du Monde poursuivra son périple mondial à Abidjan les 13 et 14 mars, puis au Caire. Il se rendra ensuite en Europe avec une escale à Paris le 20 mars prochain.
On le disait, Eric, le Nigeria, comme le Sénégal, est l'un des 5 pays africains qualifiés pour la Coupe du Monde. À moins de 100 jours de l'épreuve, RFI est allé à la rencontre du sélectionneur des Super Eagles, une vieille connaissance, Gernot Rohr.
À 64 ans, l'ancien sélectionneur du Gabon, du Niger et du Burkina Faso va vivre sa toute première Coupe du Monde. avec l'espoir de signer la meilleure performance des Super Eagles dans un mondial. Jusque-là, le Nigeria a atteint les huitièmes de finale en 1994, 98 et 2014. Il est en tout cas très motivé et sa feuille de route d'ici son premier match le 16 juin à Kaliningrad contre la Croatie est déjà toute tracée. Gernot Rohr au micro de Bright Abiola.
Beaucoup d'excitation à l'idée de préparer une Coupe du Monde. On ne voudrait pas être éliminé après le match de groupe. On voudrait si possible continuer, c'est-à-dire être en huitième. Ça serait déjà un petit exploit parce que nous avons la Croatie, l'Islande et l'Argentine dans notre groupe. Donc quand vous êtes placé en pot numéro 4, les gens supposent que vous finissez quatrième dans votre groupe. On voudrait faire mieux, je pense qu'on peut. Mais pour cela, il faudra être vraiment en pleine forme au mois de juin.
Revenons un peu sur les préparatifs de la Coupe du Monde. Vous avez 6 dates.
Ce qu'on a connu, le tirage au sort, on a cherché des adversaires qui ressemblent un petit peu dans leur jeu, dans leurs caractéristiques, aux équipes que nous allons rencontrer. On vient de rencontrer l'Argentine dans le dernier match amical, donc on les connaît un peu. Il fallait surtout jouer contre des équipes européennes. D'où le choix déjà de jouer contre la Pologne, qui elle aussi a intérêt de jouer contre une équipe africaine parce qu'elle a le Sénégal dans son groupe. Le deuxième match, c'est la Serbie qui se rapproche beaucoup de la Croatie. Le dernier stage avant d'aller en Russie, on sera en Autriche. Et on va jouer contre la République tchèque, qui elle aussi a une très bonne équipe. Donc on a vraiment des adversaires avec l'Angleterre le 2 juin à Londres, de très haut niveau. Mais tout ça, on va, et ça c'était mon désir, commencer notre préparation dans le pays, au Nigeria. Et nous allons commencer à Abuja, dans la capitale du pays, avec un match amical le 28 mai, qui sera contre la RDC.
Revenons un peu sur les équipes africaines qualifiées pour le mondial. Je veux parler du Maroc, de la Tunisie, du Sénégal et l'Égypte. Est-ce que ces équipes africaines-là ont leur mot à dire dans ce mondial russe?
Déjà, on voit que ils sont sortis des groupes très très difficiles. Pas seulement le nôtre. Il y a aussi l'Égypte avec le Ghana et tout. C'était des groupes vraiment très durs. Le Sénégal avec le Burkina Faso, l'Afrique du Sud. Donc toutes ces équipes qui sont là, elles le méritent d'être là. Elles sont très bonnes. On a l'Égypte qui est vice-champion d'Afrique et qui a le joueur de l'année avec Salah qui a eu le ballon d'or africain. Donc c'est une équipe qui va certainement aussi pouvoir sortir de son groupe. Le Sénégal également et le Maroc d'Hervé Renard a fait des choses merveilleuses aussi, notamment en Côte d'Ivoire pour se qualifier. Alors je crois que c'est peut-être l'année où le football africain va pouvoir placer une équipe en quart de finale. Et pourquoi pas en demi, si vous êtes en quart, vous pouvez aussi aller en demi. Mon souhait serait que le Nigeria y soit. Ce qui me fait un petit peu hésiter, c'est que nous sommes l'équipe la plus jeune de ce tournoi, avec une moyenne d'âge de 23,9. Et quand on est aussi jeune comme ça, dans des tournois internationaux d'une telle ampleur, parfois l'expérience peut aussi pencher en votre balance et nous l'avons pas tellement. Mais enfin, nous sommes en train de bâtir une équipe conquérante. Et d'ici la Coupe du Monde, il y a encore un peu de temps. On a ces 6 matchs de préparation et je crois qu'on sera prêt lorsqu'on va jouer le 16 juin contre la Croatie à Kaliningrad.
Gernot Rohr, le sélectionneur du Nigeria, que vous suivrez, Hugo, durant la Coupe du Monde.
Oui, ce sera avec plaisir. En attendant, je vous parle du football, moi, sur le vieux continent, l'Europe, pour vous parler notamment de Chelsea, l'équipe de Victor Moses, justement. Les Blues qui ont battu les voisins de Crystal Palace hier dans le championnat anglais, 2-1, cinquième de Première Ligue. Ils seront sur la pelouse du Barça mercredi. Ce sera le point d'orgue des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. À l'aller, les hommes d'Antonio Conte avaient tenu tête aux Catalans, mais ils ont concédé le nul à domicile, un partout, la faute à Lionel Messi. Les supporters pensent-ils leur club capable d'un nouvel exploit au Camp Nou? On va voir ça avec Olivier Sklov.
Chelsea a bien fait de l'emporter 2-1 face à Crystal Palace samedi en Première Ligue pour s'éviter une tempête à l'approche du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Barcelone. Depuis le match nul 1-0 à l'aller, il y a 3 semaines, les Blues ont enchaîné 2 défaites d'affilée contre les 2 clubs de Manchester et le départ d'Antonio Conte en fin de saison était sur toutes les lèvres. Mercredi, sur la pelouse du Barça, le manager italien sait à quel point ce sera difficile, mais un bon résultat pourrait aussi changer la saison du club.
Ce ne sera pas facile, on doit en être conscient. On joue contre une des meilleures équipes du monde. C'est sûr que le match sera complètement différent, parce que je pense qu'on avait vraiment fait un super match. C'était presque le match parfait, si on n'avait pas concédé le but dans les derniers instants de la rencontre.
Les Catalans font peur aux supporters des Blues et Bill, qui habite juste derrière le stade de Stamford Bridge, ne croit pas trop en la qualification pour les quarts de finale.
J'espère que Chelsea passera, mais je pense que Barcelone va les battre. Oui, je pense que Barcelone est très bon à domicile, mais j'espère me tromper.
Pourtant, l'espoir est bel et bien là. Andrea vend des souvenirs du club de Chelsea devant la station de Fulham Broadway depuis plus de 30 ans. Elle a déjà vu les Blues réussir l'impossible et elle a envie de croire en une victoire des Londoniens en Espagne.
Je crois que si les joueurs et l'équipe de Chelsea y vont avec la conviction de l'emporter, ils peuvent le faire. Je me rappelle de cet instant, il y a 6 ans, tout était contre nous et on était pourris en championnat, comme en ce moment. Et on a renversé la situation à Barcelone, on y est allé et on a remporté la Ligue des Champions après. Ouais, je vais parier, une victoire 2-0 pour Chelsea.
Les deux clubs se connaissent très bien pour s'être rencontrés 12 fois depuis le début des années 2000 et les spectateurs peuvent encore s'attendre à une grande soirée européenne. Olivier Sclaveau à Londres pour RFI.
Barça-Chelsea, ce sera à suivre mercredi donc en Ligue des Champions et on y reviendra bien évidemment dans Radio Foot International. Vendredi aurait dû débuter le Tour cycliste du Cameroun. Tour cycliste annulé faute de moyens, la 15e édition. 15e édition pourrait quand même voir le jour très prochainement, Eric Mabrut.
Les autorités camerounaises sont à pied d'œuvre. En effet, elles souhaitent relancer ce Tour du Cameroun et le faire partir ce mardi. Il faut dire qu'elles n'ont pas trop le choix, car l'Union cycliste internationale qui parraine l'épreuve leur met une grosse pression. Les explications sur place de Joël Wadem.
Dans un courriel envoyé ce dimanche au président de la Fédération Camerounaise de Cyclisme, la coordinatrice de l'Union Cycliste Internationale, somme la fédération de donner des explications sur le non-lancement du Tour du Cameroun ce samedi. La réponse doit parvenir à l'UCI au plus tard ce lundi matin, faute de quoi le Tour du Cameroun sera tout simplement retiré du calendrier international. Joint au téléphone pour plus d'explications, Honoré Yossi, le président de la Fédération Camerounaise de Cyclisme, indique qu'il se concertera ce lundi avec les responsables du ministère des Sports avant de répondre à l'UCI. La réaction de l'UCI fait suite aux différentes contradictions enregistrées depuis vendredi sur le déroulement effectif de la 15e édition du Tour du Cameroun. L'épreuve a été annulée la veille par le ministre des Sports du fait de la non-disponibilité du budget alloué à la compétition. Depuis lors, le président de la fédération assure que des dispositions sont en cours pour que le Tour commence effectivement ce mardi. Du coup, l'équipe algérienne qui est au Cameroun depuis jeudi continue d'attendre le déblocage de la situation. Même si cette formation est entièrement prise en charge par la Fédération Camerounaise de Cyclisme, la fatigue commence à se faire ressentir. Mokhtar Mohamed est le directeur sportif de l'Algérie.
Oui, on n'a pas le choix, on attend. On aimerait bien de faire la course que de repartir en Algérie sans rien faire avec toutes ces dépenses qu'on a dépensées pour venir ici. En fin de compte, on se retourne sans compétition. Alors, on est venu pour faire le tour du Cameroun, c'est pas pour visiter ou revenir sans faire la course. Normalement, nos billets, c'est du 8 au 19. On peut pas attendre jusqu'au 19 parce qu'on a d'autres courses. S'il n'y a pas une course ici, on préfère de retourner parce qu'on a d'autres courses en Algérie.
Les autres pays invités à ce Tour du Cameroun pourraient arriver à Yaoundé ce lundi si le budget de la compétition était disponible. La Portugaise Franco Fernandes Maria, l'une des commissaires de l'Union Cycliste Internationale, est sur place depuis 4 jours. Elle espère également une évolution positive des choses.
L'Union Cycliste Internationale, ils m'ont demandé d'attendre pour savoir si on pourrait avoir des déroulements qui permettaient encore d'organiser la course. On espère qu'avec l'appui de l'État, que la situation peut être encore débloquée et qu'on peut trouver des situations et organiser le tour du Cameroun pendant la semaine qui s'est prévue. Si on respecte la date qu'on a maintenant, qui c'est sur le calendrier. On peut trouver des solutions ensemble, comme par exemple de faire un tour avec moins d'étapes, d'utiliser la journée de repos comme jour de course. Le plus important, c'est d'avoir le feu vert pour avancer et pour mettre en pratique les solutions.
À la suite de l'annonce de l'annulation de l'épreuve, les coureurs camerounais ont été priés de quitter l'hôtel où ils logeaient pour aller attendre à leur domicile. Damien Tekou, le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, est abattu, mais ne désespère pas.
Pour moi, c'est vraiment un coup au niveau du moral, mais je reste confiant, ainsi que mes coéquipiers dans la tanière. On espère vraiment que les autorités camerounaises, à qui nous avons toujours eu confiance, notre marraine, la première dame en particulier, et son illustre époux, le chef de l'État, pourront vraiment faire de grandes choses pour que, même s'il pourrait avoir des jours de retard, qu'on puisse vraiment avoir ce Tour du Cameroun.
Pour de nombreux observateurs, si le Tour du Cameroun 2018 était finalement définitivement annulé, au-delà des sanctions de l'UCI et de l'image du pays qui prendrait un sérieux coup, cette situation mettrait en lumière l'incapacité des autorités camerounaises à se mobiliser pour accueillir des compétitions majeures, à l'instar de la Coupe d'Afrique des Nations de football de 2019. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Et suite du feuilleton, donc demain, du côté de Yaoundé.
Et on suivra ça, bien évidemment, sur RFI. Merci Eric Mamrut, on vous retrouve de l'autre côté du flash d'actualité. On va passer de Yaoundé à la Corée du Sud. Ça fait beaucoup de kilomètres, mais c'est aussi ça, Mondia Sport. C'est un tour du monde sportif. Vous le savez, Pyeongchang accueille en ce moment les plus grands Jeux paralympiques. Un événement très important, la délégation française compte 15 représentants. Le para-biathlon, pratiqué par les sportifs déficients visuels, compte parmi les disciplines au programme. C'est un sport étonnant qui requiert une complémentarité totale entre un athlète et son guide, mais aussi une technologie, elle aussi surprenante, Louis Paligiano.
Le son que vous entendez en ce moment, c'est celui qui sert de repère aux parabiathlètes déficients visuels pendant la séance de tir à la carabine entre deux épreuves de sprint aux Jeux paralympiques de Pyeongchang. Le père de Simon Velverde, qui guide Anthony Chalençon, nous en dit plus.
Pour les biathlètes non-voyants, donc biathlètes ça veut dire qu'ils font du tir, il y a une petite subtilité, c'est qu'ils tirent avec une carabine laser dans une cible qui a 10 mètres 2 avec une petite cible à atteindre qui fait 2 cm de diamètre et ils ont un casque sur les oreilles. Et dans ce casque, ils ont un son discontinu, un bip, tant qu'ils sont loin de la cible. Et s'ils s'approchent de la cible, le son devient continu, c'est d'abord un son grave. Et lorsqu'ils passent au milieu de la cible, et ils font que passer, on ne peut pas s'arrêter sur le milieu, c'est trop dur. Lorsqu'ils passent au milieu, le son, une demi-seconde devient aigu, et c'est là qu'il faut qu'ils lâchent leur balle.
Et pendant les séances de ski, le binôme doit parfaitement se connaître afin de fonctionner en totale symbiose, comme nous le confirme Daniel Valverde, qui en profite pour revenir sur la rencontre entre les deux sportifs.
Anthony et Simon, un peu par hasard. Anthony, il avait besoin d'un nouveau guide. Simon était dans le circuit du ski de fond déjà depuis longtemps. Et puis Anthony a passé un coup de fil un peu au pif. Et Simon lui a répondu, ouais, ok, il n'y a pas de problème, je suis ton guide. Et quand il a raccroché, il s'est dit, oula, mais je sais pas où j'ai mis les pieds là, j'ai pas bien compris. Et aujourd'hui, ils sont là. Comme pour tous les athlètes, invalides ou pas valides, beaucoup d'entraînement, beaucoup de stages. Pour les déficients visuels, il y a cette particularité qu'ils sont en binôme. Deux personnes qui vont s'appliquer à faire de leur mieux pour avoir la même récompense.
Une véritable amitié s'est créée entre Anthony Chalençon et Simon Valverde au fil de la préparation pour les Paralympiques de Pyeongchang. Après une 11e place hier en sprint 7,5 km, ils seront de retour dès demain en 20 km libre avec la ferme intention d'en découdre. Louis Paligiano, Pyeongchang, RFI.
Je vous l'avais dit, c'est surprenant, pas besoin de régler votre transistor, tout va bien. On continue à parler de ces Jeux paralympiques de Pyeongchang et on continue à parler de la délégation française, puisque après l'or samedi en descente, la porte-drapeau Marie Bochet, déjà 4 fois titrée à Sochi, a remporté un deuxième titre paralympique ce dimanche. Elle est, c'est une skieuse, Marie Bochet, elle s'est imposée tout à l'heure en Super G. Mondial Sport revient après les informations, restez à l'écoute, on parlera rugby, box, vous entendrez également le ministre des Sports ivoirien. À tout de suite.
Mondial Sport sur RFI.
Hugo Moissonnier.
Éric Mamrut.
Mondial Sport, début de la seconde période. Bienvenue si vous nous rejoignez avec une belle page rugby à l'ouverture en perdition. Pendant près d'un an, l'équipe de France a enchaîné un deuxième succès de rang hier à l'occasion de la quatrième journée du tournoi des Six Nations face à l'Angleterre et avec la manière. Qui plus est, les Bleus sont-ils guéris pour autant? Élément de réponse avec Eric Chorin.
Ils n'arrivaient plus à quitter la pelouse du Stade de France. Les joueurs tricolores à l'issue de leur 40e victoire en 104 confrontations face aux Anglais. Un crunch gagné devant les 78 000 spectateurs qui garnissaient le Stade de France. Même si la copie n'a pas toujours été parfaite, c'est si bon. D'autant que battre les Anglais dans le tournoi, cela n'était plus arrivé depuis 4 ans. Mathieu Bastaro en était. Alors qu'est-ce qu'on ressent en regoûtant à ce genre de victoire, Mathieu ?
La joie, l'excitation, c'était super, quoi. C'est super de gagner un match comme ça. Parce que souvent, les matchs comme ça... On les perdait après un gros effort, même si j'étais pas là, mais je pense aussi au match de l'Irlande avec un scénario un peu comme ça. Là le match on l'a pas lâché, on a tout donné. Je pense que du 23, voilà, on a tout donné. Alors oui, c'est vrai qu'on a fait des erreurs quelques fois, mais sur l'engagement, je pense qu'on a rien à nous reprocher.
Irréprochable dans l'engagement, les Bleus ont su dresser les barbelés en défense sur les temps forts anglais et gagner de nombreux ballons dans les rocks pour se sortir de la pression avant d'envoyer du bois offensivement sans aller pour autant dans l'embut du 15 à la rose. On pense à l'énorme percée de Rémi Grosso notamment, suivi d'un très bon renversement d'attaque où Guirado, Ficou et Macheneau ont fait avancer les Bleus, ou bien encore au malin coup de pied en coin de François Trinduc sur lequel Benjamin Fall a été plaqué trop haut alors qu'il pouvait aller dans l'embut. Mais cette dernière action a quand même été récompensée par un essai de pénalité accordé par l'arbitre sud-africain du match à l'arrivée, malgré les difficultés rencontrées en touche et en mêlée notamment au début du match, et une fin de partie haletante après l'essai de Johnny May et encore plus après le coup de pied de Lionel Boxis qui ne trouvait pas la touche. Les Bleus ont fait tomber la deuxième nation mondiale. De là à parler du retour de l'équipe de France, le trois quarts Gaël Ficou, lui aussi de retour, préfère rester prudent.
Je ne vais pas m'avancer, mais en tout cas, on a progressé sur ce match. Je pense qu'on a été redoutable en défense. Sincèrement, je pense qu'il y a eu un état d'esprit défensivement qui a été énorme ce soir. Et il faut construire sur ça. On a une très bonne défense, ça c'est déjà bien. Et offensivement, il y a eu de très bonnes choses aussi, mais il faut régler encore quelques petits détails qui vont faire que les 2-3 actions à 1 mètre de la ligne, on les marquera la prochaine fois.
Justement, vous allez aller au Pays de Galles libéré là ?
On va y aller avec un peu plus de confiance, sans être prétentieux. On va continuer à travailler. Cardiff, c'est jamais facile. C'est pas parce qu'on a gagné les Anglais qu'on gagnera les Gallois. Donc ça, faut bien se le mettre dans la tête. Il y a plein de choses encore à régler pour être une équipe redoutable, mais on est sur la bonne voie, on voit qu'on progresse. Et ça, c'est une très bonne chose.
Les Bleus sur la bonne voie avec ce deuxième succès de rang, bien plus probant que le premier face aux Italiens. Mais avant d'aller défier les Gallois chez eux, Mathieu Bastaro, qui a déjà connu quelques retours de manivelle dans sa carrière, préfère également ne pas s'emballer.
Faut pas s'enflammer, parce que si on en prend 40 la semaine prochaine, on va encore nous désosser. Donc non, faut rester humble. Aujourd'hui, on a fait une grande performance et on va préparer ce match contre le Pays de Galles un peu plus sereinement.
L'équation est toujours la même, la victoire amène la confiance et réciproquement, pourvu que ça dure jusqu'à la fin du tournoi, déjà avec un match au Pays de Galles qui est déjà l'objectif fixé par Jacques Brunel à ses joueurs, comme nous le confie le pilier Jefferson Poirot.
Voilà, le discours de Jacques, c'est aussi il y a quelque chose de bien à aller faire la semaine prochaine. On ne peut pas se permettre de la décontraction parce qu'on a battu les Anglais. Il y a un podium quand même à aller chercher. Et à la fin du tournoi, peut-être qu'on peut se retrouver à autant de victoires que justement l'Angleterre sur ce tournoi. Donc il faut le faire.
Et quand c'est Jefferson Poirot qui parle d'aller gagner au Pays de Galles, dont le petit nom est le 15 au Poirot, on a envie de le croire.
Je ne vous félicite pas pour vos jeux de mots, Eric Chorin. En attendant, c'est l'Irlande qui remporte le tournoi des Six Nations cette année. La France et l'Angleterre, elles, se retrouveront notamment lors du Mondial 2019. Une compétition dont rêve aussi l'équipe d'Espagne. Et oui, dans ce pays où le football, bien sûr, est roi, le rugby à 15 se développe. L'équipe nationale pourrait notamment valider son billet pour la Coupe du Monde face à la Belgique la semaine prochaine. Ce dimanche, elle a largement battu l'Allemagne 84-10 dans une belle ambiance à Madrid. Chaperon.
La pluie, le froid et le vent n'ont pas arrêté les quelques 12 000 personnes venues assister à la victoire de leur équipe face à l'Allemagne dans le stade du centre universitaire de Madrid. Le roi, Philippe VI, a même fait le déplacement, une première pour du rugby. Un sport de plus en plus populaire en Espagne, pays proche d'une nouvelle qualification pour la Coupe du Monde 20 ans après son unique participation. Le 15 du Lyon, son surnom, est de plus en plus suivi, comme l'explique l'un des joueurs de cette sélection, le trois quarts centre de Bourg-en-Bresse, Fabien Perrin.
C'est sûr que le rugby ne remplacera pas le foot c'est vraiment c'est la religion quoi ici. Non, il y a vraiment un soutien, les gens s'intéressent, même dans la rue quand on allait se balader, on a été pas mal arrêtés, enfin ça a vraiment pris quoi. Les gens étaient vraiment derrière nous, on a senti quand même un soutien populaire quoi. Avec plusieurs Français, on a tendance par habitude à parler français. C'est un mélange entre de l'anglais, du français, de l'espagnol, c'est intéressant.
Un vestiaire cosmopolite où la langue de Cervantes s'accorde avec celle de Molière. 17 des 30 joueurs convoqués face à l'Allemagne évoluent dans les différents championnats de France, de la première à la troisième division. Des Espagnols, oui, mais aussi des Français ayant des ascendants de ce côté-ci des Pyrénées, exilés dans l'Hexagone lors de la guerre civile entre 1936 et 1939. C'est le cas de Guillaume Rouet, demi de mêlée de l'aviron bayonnais. Choisir l'Espagne à la France, c'était logique.
Honnêtement, il y avait mon frère qui jouait déjà. J'avais vu un match contre la Géorgie et c'est vrai que toute cette ferveur, ça m'avait vraiment donné envie et c'est pour ça aussi que j'ai fait les papiers pour obtenir la double nationalité. Après, j'habite aussi une région où, à Bayonne, où je suis à 20 minutes de l'Espagne et c'est vrai que j'y vais assez souvent. J'adore ce pays et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de jouer pour l'Espagne.
Depuis plusieurs années, le succès du rugby en Espagne est croissant. En atteste sa présence grandissante dans les médias, comme l'explique le journaliste de la Cadena Ser, Miguel Danes, qui anime chaque jeudi une émission sur le rugby disponible sur le site internet de la radio espagnole.
C'est surtout depuis 3 ans que l'intérêt a grandi et ça a permis une plus grande présence dans les médias. Le parcours de qualification pour le mondial offre un scénario attractif et donc les gens commencent à parler de rugby. Avant, c'était difficile. Maintenant, ça l'est moins. La télévision publique offre une couverture télévisée. Elle retransmet tous les matchs de la sélection nationale en direct. Ensuite, la fédération produit les matchs du championnat. C'est un pari de la fédération qui a compris qu'elle devait couvrir ça. De cette manière, on voit beaucoup de rugby dans les médias. C'est une bonne décision.
En à peine 4 ans, le nombre de licenciés est passé de 24 000 à 36 000 personnes. Un chiffre qui pourrait augmenter suivant la qualification ou non de l'équipe nationale, mais la fédération voit déjà plus loin, comme nous l'explique son vice-président Juan José García Luna.
C'est un objectif important pour la fédération espagnole que de former des talents, découvrir des talents pour la haute compétition, et il faut de l'argent pour le faire. Nous effectuons ponctuellement des rassemblements, mais notre rêve est de pouvoir avoir une académie fixe. Pour le moment, nous utilisons les installations des différents clubs du pays et nous faisons des rassemblements d'une semaine. Nous devons avoir un lieu unique pour y former nos futurs talents.
Après cette large victoire contre l'Allemagne, l'Espagne ira chercher son ticket pour le Mondial 2019 du côté de la Belgique la semaine prochaine. Participer au rendez-vous planétaire aiderait forcément cette petite fédération à grandir, exister dans un pays où le football est roi. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Et je vous signale également que le stade San Mamés de Bilbao, en Espagne, donc, accueillera au printemps prochain les finales des Coupes d'Europe. On grimpe sur les rings à présent. Le français Cédric Vitu pouvait remporter la ceinture mondiale WBA des Super Welters hier, mais il s'est incliné face à l'Argentin Brian Castagno, le bien nommé. Une déception pour le public de la scène musicale, une salle toute neuve située non loin de nos studios, un écrin qui accueille habituellement des musiciens célèbres, mais le noble art se l'est approprié avec succès hier. Il faut dire qu'en France, la boxe revient en force. Thomas de Saint-Léger.
À la scène musicale ce soir, un tube à la mode. La cloche indiquant le début et la fin des runs. Des cette petite musique attire du monde. Salle comble, 3800 personnes pour assister au spectacle. 7 combats professionnels présentés à l'américaine. Son, lumière et animation des fameuses Boxing Girls. Glamour ou tape à l'œil, à vous de voir, mais la formule marche. La preuve avec Quentin, 25 ans, look chic et soigné pour lui. C'est une première partagée avec sa compagne. Un cadeau de Saint-Valentin qui fait son effet.
Ah oui, on a beaucoup apprécié les Boxing Girls, je crois que c'est comme ça qu'elles s'appellent. C'est vrai que c'est un vrai spectacle. Que ce soit la musique, les projecteurs, etc. Même tout ce qu'il y a au-delà du sport, c'est plutôt agréable, plutôt spectaculaire. Et je pense que même si on n'est pas un grand amateur, on peut apprécier.
Des novices et des connaisseurs comme Jean-Paul Belmondo, légende du cinéma français, des hommes et des femmes, des costumes et des joggings, les bords du ring offrent une belle mixité, signe que la boxe séduit partout et à tout âge, des enfants parfois très jeunes sont présents. Exemple avec Félix, 13 ans.
Ça me donne envie de monter sur un ring, mais je sais que j'ai pas le niveau. Enfin, je sais que. J'ai pas la carrure, j'ai pas le charisme.
C'est violent quand même les combats pro.
Bah, c'est vrai, mais après, vu que c'est en tant que sport, c'est différent de. Tu vois, il y a aussi le contexte. Enfin, c'est différent de un combat de rue ou une scène violente d'un film. C'est que là, tout est réglementé. S'il y a une blessure, on tente de la soigner, de s'en occuper, c'est différent.
Cet engouement intergénérationnel pour la boxe se traduit aussi dans les chiffres. Le nombre de licenciés a doublé en 10 ans. Ils sont plus de 50 000 aujourd'hui, avec comme locomotive des champions Tony Yoka ou Estelle Mosley, des promoteurs ambitieux et un diffuseur Canal+. De nouveau au diapason, un cercle vertueux. Mais attention à ne pas oublier la base, c'est l'analyse de Nasser Negrouche, journaliste et ancien boxeur de haut niveau.
C'est un sport qui est sorti du ghetto, en quelque sorte. Néanmoins, le danger aujourd'hui, c'est une boxe à double vitesse, c'est-à-dire qu'avec des clubs de banlieue qui souffrent, qui ont des tout petits budgets, qui ont du mal à organiser des soirées de boxe, et puis une boxe VIP, des gens d'un certain niveau social qui vont en salle de boxe pour s'épanouir, pour y trouver des émotions particulières, apprendre aussi les valeurs de la boxe. On a eu plusieurs salles de boxe de ce type qui aujourd'hui attirent des gens du showbiz, des cadres supérieurs, des gens de la classe politique. Et à côté, on a toujours ces clubs, il ne faudrait pas oublier, sont des clubs de proximité, des clubs qui ne sont pas des structures privées, mais des associations locales, municipales, qui fonctionnent avec des subventions extrêmement modestes, sur la base du bénévolat, et avec des gens qui donnent vraiment leur soirée, leur week-end, pour que le club ne coule pas et fonctionne.
Autre défi pour la boxe française, mais sur le plan des résultats sportifs, reconquérir une ceinture de champion du monde, partie remise après la défaite logique de Cédric Vitu face à l'Argentin Brian Castagno.
Fin du combat.
Et je vous signale au cours de cette réunion le cinquième combat remporté chez les professionnels pour le natif de Dakar, Souleymane Sissoko, médaillé de bronze au JO de Rio pour la France.
Abidjan, 97.6 FM.
Place à l'invité de Mondial Sport à présent, le ministre ivoirien justement des sports, monsieur François-Albert Amichia, que vous avez rencontré cette semaine avec Antoine Grenier, Eric Mamrut.
François-Albert Amichia a accepté notre invitation, il est venu nous voir dans les locaux de RFI. Avec lui, nous avons évoqué, vous l'avez entendu hier soir dans la première partie de notre entretien, nous avons évoqué l'athlétisme et le taekwondo ivoirien. Ce soir, place au football, à la CAN 2021 que la Côte d'Ivoire va organiser, à la crise qui secoue le football local, mais d'abord place au tourment de la Sélefanto. Après 3 participations consécutives, les éléphants ne participeront pas à la Coupe du Monde cet été en Russie. À qui la faute? Quels sont les responsables de cet échec? Écoutez la réponse du ministre des Sports, François-Albert Amichia.
Je crois que dans cette affaire, les responsabilités sont partagées. 2015 a été une année, une bonne année, une excellente année pour le football ivoirien. On remporte la CAN en Guinée équatoriale. Mais ce qu'on oublie peut-être, c'est que nous arrivons à la fin d'un cycle. L'époque glorieuse des Drogba, des Yaya Touré, des Gervinho. Et il fallait assurer la relève. Peut-être qu'on n'a pas su manager cette transition. Mais à partir de 2017, avec la sortie de l'équipe dès le premier tour au Gabon.
Avec et puis, Michel Dussuyer en tant que sélectionneur.
Avec Dussuyer. Et puis les matchs difficiles que nous avions eus avant de rencontrer le Maroc, laissant entrevoir déjà quelques difficultés. Il appartiendra à la Fédération ivoirienne de football de prendre les dispositions qu'il faut pour que d'abord la Côte d'Ivoire se qualifie pour la CAN 2019 et puis pour que la Côte d'Ivoire réussisse sa CAN en 2021. Cela suppose une réflexion au niveau de tous les acteurs du football. Cela suppose une volonté de sortir le football ivoirien de cette crise qui n'est pas une grave crise, mais qui a besoin de l'unité de tout ce milieu pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire et surtout aux Ivoiriens qui sont friands de bon football et surtout de bons résultats, de pouvoir redonner toute cette passion autour de l'équipe de football.
On va parler de cette crise qui secoue le football ivoirien. Pour continuer sur ce sujet, est-ce que par exemple le choix de Marc Villemotte, est-ce que c'était un mauvais choix, un mauvais casting?
Vous savez, au niveau du ministère, nous n'interférons pas dans la gestion des fédérations.
Vous avez donné votre avis quand même?
Nous avons été informés. Nous n'avons pas donné notre avis pour ou contre. Nous sommes informés, nous prenons les dispositions pour que la fédération marche. Et c'est notre point de vue et c'est la philosophie à laquelle nous tenons depuis que nous sommes à la tête de ce département ministériel.
La sélection n'a toujours pas de remplaçant à Marc Villemotte. Ça fait plusieurs mois. Où en est-on?
Bah écoutez, je crois que cette question, c'est plutôt à la fédération qu'il faut la poser. Le ministère des Sports espère que très rapidement, un grand entraîneur sera trouvé pour l'équipe de football de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire se veut une grande nation de sport, une grande nation de football, et nous pensons que les dispositions doivent être prises pour combler rapidement ce vide.
Vous avez une idée, un profil en tout cas, de technicien qu'il faudrait à la Sélefanto?
Écoutez, nous disons, vu les derniers résultats, il faut quelqu'un qui ait du caractère. Quelqu'un qui puisse réunir les différents égos pour en faire une équipe collective. Parce que des individualités, la Côte d'Ivoire en a. Nous regardons de loin en tant que profanes, nous disons il faut quelqu'un de caractère, il faut quelqu'un qui puisse créer une véritable équipe collective, et puis il faut quelqu'un qui puisse motiver ces jeunes joueurs en leur faisant comprendre ce que c'est que le football pour le peuple ivoirien.
Quelqu'un qui connaît l'Afrique déjà?
Écoutez, dans le passé, nous avons eu des entraîneurs comme les Peter Schnitger qui étaient à leur début en Afrique, qui ont obtenu de bons résultats. Cela peut être un atout, mais pas forcément.
Yaya Touré a exprimé il y a quelques semaines son désir de revenir en sélection. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée?
Écoutez, je pense qu'il appartiendra au staff technique d'apprécier, mais le peuple ivoirien, je pense, a appris avec beaucoup de satisfaction ce retour annoncé.
Il peut apporter quelque chose véritablement?
Vu l'expérience que Yaya a et vu l'influence qu'il a sur ces jeunes joueurs, je pense que ça peut être une bonne chose.
La crise que traverse le football ivoirien, on y vient. Que pensez-vous de cette brouille donc entre la fédération ivoirienne, son président Sidi Diallo et ce groupement d'intérêts, les clubs qui réclament son départ?
Au niveau du ministère des Sports et du gouvernement ivoirien, nous souhaitons que l'unité soit trouvée au niveau de la fédération. Parce que pour le peuple ivoirien, ce qui est important, ce sont pas ces querelles. Ce qui est important, c'est la vitalité et la vivacité du football ivoirien. Il faut créer rapidement les conditions pour que nos joueurs évoluent dans de bonnes conditions, pour que nous ayons un championnat attractif et pour que le peuple ivoirien soit satisfait.
Est-ce que vous faites pleinement confiance en Sidi Diallo pour continuer à mener les affaires du football ivoirien à l'avenir?
Le politique ne s'ingère pas dans les affaires des fédérations. Nous prenons acte des décisions qui sont prises et nous accompagnons les équipes en place.
Alors on va parler de la CAN 2021, Antoine.
En ce qui concerne la CAN 2021, le cahier des charges pour l'organisation s'est considérablement alourdi récemment avec ce passage de 16 à 24 équipes. Ça pose de gros problèmes à la Côte d'Ivoire en termes logistiques et financiers.
Ça aurait pu, mais juste après le symposium de la CAF qui s'est tenu au Maroc, le président Alassane Ouattara a pris la décision que la Côte d'Ivoire organiserait la CAN 2021. Donc des dispositions et des instructions ont été données au gouvernement et en particulier au ministère des Sports et des Loisirs pour accélérer le mouvement et puis voir. Et à partir de ce moment, alors que la CAN devait se dérouler dans 3 villes avec 4 groupes, nous sommes passés à 5 villes avec 6 groupes. Je crois que les dispositions sont prises. Nous venons d'achever le dossier d'appel d'offres des entreprises qui doivent construire les stades complémentaires et réhabiliter les stades existants ont été choisis et très bientôt les travaux commenceront.
Vous pouvez nous citer les villes qui accueilleront la compétition?
Alors, il y a la ville d'Abidjan qui accueillera 2 groupes. Donc, un groupe qui sera basé au stade Félix Houphouët-Boigny et un autre groupe au stade olympique des Bimpé dans la banlieue d'Abidjan. La ville de San Pedro accueillera un groupe. La capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, accueillera un autre groupe. Bouaké, la deuxième ville du pays, verra son stade agrandi pour accueillir un autre groupe. Et puis, dans le nord du pays, la ville de Korogo accueillera le dernier groupe.
Ça fait 6 stades?
Oui.
Où en est-on pour l'instant? Combien sont déjà construits? Combien il faut en construire?
Alors, on a le stade Félix Houphouët-Boigny qu'il faut réhabiliter, mais qui a été déjà réhabilité lors de l'organisation des 8e Jeux de la Francophonie. Donc, c'est juste une mise à niveau. Il y a le stade de la paix de Bouaké qui existe déjà, donc qu'il faut réhabiliter, qui doit passer de 25 000 places à 40 000 places. Là aussi, ça ne demande pas de grands efforts. Yamoussoukro verra un nouveau stade construit, un stade de 20 000 places, tout comme San Pedro verra un stade de 20 000 places construit, et la ville de Korogo qui verra aussi un stade de 20 000 places.
Ça fait quand même un décharge en plus, passer de 16 à 24. Il y a les moyens ?
Oui, la Côte d'Ivoire se donne les moyens de le faire.
Et 3 ans et demi, on en est à peu près à 3 ans et demi de l'échéance. C'est beaucoup, c'est proche, il va falloir faire vite.
Pour nous, le compte à rebours a commencé. Nous nous sommes donné un délai. Nous comptons finir ces travaux fin 2020. La compétition se déroulant à la mi-2021, cela nous donne du temps de faire tous les réglages nécessaires.
Il y a les stades, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi concernant les routes, les aéroports, les hôtels ?
Bien sûr, tout s'enchaîne. En dehors des stades, il y a les villages CAN, il y a les villas pour les cadres, il y a les aménagements des infrastructures qu'il faut faire, il y a les aéroports qu'il faut réhabiliter. Tout cela entre dans le plan global de construction des infrastructures prévues par la Côte d'Ivoire dans son plan national de développement 2016-2020.
Là, vous pensez être dans les temps ?
Nous l'espérons en tout cas. Lors de la signature des différentes conventions avec les sociétés, nous leur avons donné ce délai.
Vous avez accueilli les Jeux de la Francophonie l'an dernier à Abidjan. Vous allez abriter la CAN 2021. Il y a une compétition à venir qui n'a pas de pays organisateur, qui n'en a plus. Ce sont les Jeux africains 2019. Vous avez des infrastructures. Est-ce que ça pourrait vous intéresser ?
Écoutez, si nous sommes sollicités, nous soumettrons cette requête au gouvernement ivoirien. Je pense que cela ne devrait pas poser de problème. La Côte d'Ivoire est prête à accueillir, en regardant la part de chacun, les grands événements sportifs. À la faveur des 8e Jeux de la Francophonie, nous avons pu doter la ville d'Abidjan d'infrastructures de qualité dans les différentes communes du district d'Abidjan. Et surtout, avec le village de la Francophonie, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a aucun problème pour accueillir les athlètes.
Ça veut dire que vous allez vous porter candidat à l'organisation des Jeux africains 2019 ?
Écoutez, pour le moment, nous n'avons pas été saisis et nous n'avons pas présenté de dossier dans ce sens.
Le désir est là ?
Si nous étions sollicités par l'Union africaine et par la Confédération africaine des sports, cela pourrait se faire. Vous savez également que l'échéance 2021 pour nous est très importante. Nous ne voulons pas disperser également nos forces. Nous voulons vraiment réussir cette édition de la CAN.
Les Jeux africains 2019, dont la Guinée équatoriale s'est retirée de l'organisation récemment. Ils auront donc peut-être lieu en Côte d'Ivoire, d'après le ministre des Sports, François-Albert Amichia. Le Maroc s'est dit également intéressé.
C'était l'invité de Mondial Sport. Pour refermer ce numéro, Eric Mamrud, direction Niamey. Et on va parler pétanque. Oui, oui.
Et oui, pour la première fois depuis bien longtemps, le Niger a accueilli ce week-end un tournoi international de sport boule. 7 pays africains y ont pris part. Et à l'arrivée, le Burkina Faso a confirmé sa bonne passe actuelle. Ousmane Keïta était sur place.
Maître intraitable en sport boule sur le continent, le Burkina Faso a fait une démonstration de force en raflant la mise. En finale du tournoi, la triplette burkinabé composée d'Augustin Compaoré, Mustapha Baguian et Nestor Zokomé s'impose nettement face à celle du Maroc 13-2. Et en finale de la consolante, c'est toujours le Burkina Faso qui s'impose cette fois-ci en concassant le Niger 13-1. L'entraîneur burkinabé ne peut qu'être satisfait. Madi Ouedraogo.
On est très très content. On remercie les autorités de notre pays, surtout le ministère des Sports qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner dans nos déplacements. On tient aussi à remercier tous les boulistes du Burkina Faso. En tout cas, on est très fiers d'avoir remporté ce trophée-là, puisqu'on était les 17 et 18 mars à Kay. On a eu la chance de remporter ce trophée. Et encore une fois encore, on remporte ce trophée devant le Maroc. Et après la compétition de Sali à Dakar, on a fait un séjour à Kay qui nous a permis de faire un bon travail de préparation. Ça nous a permis de nous entraîner là-bas au moins une quinzaine de jours. Ça nous a permis de rehausser le niveau des joueurs. Voilà le résultat qui est payant aujourd'hui.
Du côté du Maroc, c'est la déception totale, même si on reconnaît cette victoire burkinabé. Pour l'entraîneur, la forte chaleur qui s'abat sur Niamey en est pour quelque chose. Alaoui Hafid.
C'est la déception, oui, mais je dirais que nous ne sommes pas habitués à jouer dans un tel climat, il faut dire la vérité, parce que
il fait chaud.
Il fait trop chaud, à 43 degrés, 44 degrés, nous ne sommes pas habitués à jouer sous cette température. Donc on avait les adversaires, on avait le climat aussi qui était contre nous. Bon, on a pu supporter pendant les deux jours, mais en finale, on a eu un peu de relâchement. C'est ce qui explique notre défaite, parce que quand même, on a supporté deux jours, c'est c'est beaucoup. Hein. Burkina mérite amplement sa victoire, ils ont bien joué, il faut dire, qu'ils ont été au niveau, ils ont très bien tiré.
Cette première édition du tournoi de pétanque de Niamey a connu un franc succès, estime le directeur de la compétition, Jabiru Habiba.
Nous allons dire que ça a été positif. Ça s'est passé dans la sérénité, dans le respect de la règle de l'art de la pétanque. Ce que nous avons constaté, il y a eu beaucoup d'évolutions à ce qui concerne la pétanque au niveau du Niger. Ça nous a ouvert encore la voie à aller au professionnalisme que nous prenons tant d'années.
Face à l'engouement que suscite la pétanque sur le continent, les dirigeants des fédérations africaines espèrent son inscription lors des JO de Paris 2024. Tafsir Ly, président de la Fédération nigérienne de sport boule.
C'est une discipline qui est en train de drainer du monde. Donc je pense que c'est une discipline qui mérite d'être retenue au niveau des disciplines olympiques.
De 2024
De 2024. C'est notre objectif, c'est l'objectif de toute la famille de la pétanque.
Prochain rendez-vous est pris en 2019 pour la deuxième édition de ce tournoi international de pétanque de Niamey. Ousmane Keta, Niamey, RFI.
Merci Ousmane Keta et merci à vous Eric Mamrut, bonne soirée. On referme ce numéro de Mondial Sport un peu comme on l'a débuté avec du football et les derniers résultats en Europe. Marseille 3ème de Ligue 1 qui s'impose à Toulouse 2-1 avec un but de Mitroglou, tout arrive et malgré une réalisation du Congolais Moubélé pour le TFC. Bertrand Traoré, le Burkinabé, donne la victoire à Lyon, 4ème qui s'impose face à Caen 1-0. En Angleterre, je vous en parlais tout à l'heure, Arsenal qui bat Watford 3-0, Arsenal 6ème, et il y a eu un but d'Aubameyang et puis Tottenham, le rival, qui s'impose à Bournemouth 4-1 avec là un but de Serge Aurier, et c'est encore plus surprenant. Et puis le meilleur pour la fin, l'Italie, la Juve qui passe en tête, victoire 2-0 à Udine. Naples a fait 0-0 face à l'Inter Milan. Le foot, on en reparle demain dans Radio Foot International. Ciao, très bonne soirée sur RFI.